Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
De retour dans les locaux de Mon Paris FM, hein. J'espère que vous êtes toujours bien installés. Nous allons débriefer ce match-là. Hein. On a pu voir l'équipe de France s'imposer 4 buts à 1 face à la Norvège. L'équipe de France qui ont tout simplement maîtrisé leur sujet avec nous autour de la table du beau monde, comme d'habitude. Comment ça va, Jason?
Ça va et toi, Eladj?
Ça va, t'as vécu un bon match?
Une bonne première mi-temps. Pas un bon match, mais une bonne première mi-temps.
Une bonne première mi-temps, en tout cas du côté français, hein, parce que la deuxième a été dominée par les Norvégiens. Abou, comment ça va?
Ça va, pareil, et toi, Eladj?
Ça va, merci. Bon match?
Ça va. Après, c'était un match où il n'y avait pas véritablement d'enjeu, dès qu'on voit le 11 départ de Norvège qui annonce la couleur. Donc, mais les Bleus ont fait le travail, et c'est l'essentiel, j'ai envie de dire.
Les Bleus ont fait le travail, hein. En tout cas, c'est pas Guy qui va nous dire le contraire, n'est-ce pas, Guy?
Absolument, de toute façon, la deuxième mi-temps, oui. Les Bleus n'ont fait que gérer. Oui. Le résultat. Donc, c'est vrai que la deuxième mi-temps n'a pas été fantastique.
Oui.
Mais il faut se mettre à leur place. Il y a les 16e de finale, oui, qui arrivent mardi.
Oui,
déjà.
Y a les 16e de finale qui arrivent mardi. Exactement. En tout cas, on a pu voir la France, en tout cas, dérouler face à la Norvège. Moussa, toi qui as commenté ce match, déjà, parle-nous de ta première expérience. Est-ce que ça t'a plu? C'est pas facile, hein, de commenter.
Ouais, c'est pas facile. C'est pas, faut, faut suivre le match et tout. C'est pas facile. Et même des fois, on a des réactions. Tu vois, faut
même
pas
la
faire,
prononciation
mais
bon. De certains,
ouais,
joueurs.
Ouais, la prononciation,
c'est assez compliqué des fois.
c'est compliqué, mais bon. Bon, je m'en excuse si je me suis trompé sur certaines prononciations. Mais en tout cas, non, c'était une bonne première et je suis pas.
Merci, Moussa. Maxence, comment ça va, Maxence?
Bah écoute, ça va, on a fini l'entrée, on va passer au plat de résistance rapidement, j'espère, parce que là, j'ai l'impression que ça fait 3 mois que cette Coupe du
Monde. Est-ce qu'on peut dire même que la Suède est un plat de résistance, même si ça n'est pas sûr que ça soit la Suède, hein. Mais pour l'instant, c'est envisagé comme ça, mais ça bouge beaucoup.
Puis déjà, c'est un match couperet, donc même si c'est que la Suède pour commencer, on l'a vu en 2021 face à la Suisse où on ne s'attendait pas à une élimination, il y a toujours ce petit sel supplémentaire, on n'est pas à l'abri d'un carton rouge, un péno, quelque chose, une blessure, un truc. Ça prend tout de suite des proportions plus importantes sur les matchs à élimination directe, donc ouais, on a hâte de s'y mettre.
On a hâte de s'y mettre, en tout cas on a pu voir les Bleus dominer leur sujet, hein, avec un triplé d'Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, lui qui a été énormément critiqué, hein, avec les Bleus, hein, le Ballon d'Or 2025. Abou, est-ce que tu peux nous donner ton impression sur sa prestation?
Bah, très gros match, et c'est bien pour lui surtout, c'est bien pour l'équipe de France aussi. C'est bien parce qu'il répond, finalement, on dit c'est la compétition des stars, Haaland, Mbappé, Ronaldo, Messi, et il fallait que le Ballon d'Or aussi montre de quoi il est capable. Et on nous a beaucoup expliqué que Ousmane Dembélé était un système player, qu'il serait bon que dans un rôle de numéro 9 au Paris Saint-Germain et nulle part ailleurs. Bah, il nous prouve que quand tu le remets dans sa position naturelle, qui est celle d'ailier droit, moi je me rappelle, là j'ai eu l'impression de voir le Dembélé de Rennes.
Donc pour toi, c'est vite vu, hein. C'est ailier droit et pas à ta comprendre.
Non, c'est ailier droit et il nous l'a prouvé. Mbappé en 9, ça marque. Dembélé à droite, ça marque. Et je trouve vraiment que la France a la meilleure attaque de cette compétition. Et la performance de Dembélé ce soir nous le montre.
Jason, tu partages le même avis?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec Abou. Une grosse prestation de Ousmane Dembélé. Personne ne s'y attendait, je pense. Très peu de personnes, en tout cas. Un bon petit triplé en première mi-temps. Après, je pense qu'il aurait pu en mettre plus. Il a voulu être collectif et pas manger le gâteau tout seul. Mais dans l'ensemble, la première mi-temps, il y a eu de très bonnes combinaisons, même s'il y a eu quelques frayeurs défensifs. Mais sinon, ça, dans l'ensemble de la première mi-temps, ça a été, en tout cas.
Oui, dans l'ensemble, en tout cas, ça a été. Guy, tu disais, hein, il y aura bientôt les 16e, hein, l'équipe de France devra être prête. Et déjà, dans un premier temps, pour cette équipe, qu'est-ce que tu verrais en tout simplement en charnière dans la défense? Pour toi, c'est Upamecano, Saliba, même si on sait que Saliba aussi est diminué.
Pour moi, oui.
Donc Konaté n'a pas ses chances.
Je pense pas. Upamecano, c'est un monstre. c'est l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Coupe du Monde. Et Saliba, il y a une connexion entre les deux qui marche bien.
Oui.
Je suis plus inquiet pour les latéraux. Je trouve qu'on n'a pas de très très bons latéraux.
C'est sûr, hein, avec la blessure de Mendy, hein, qui n'est pas là. Mendy qui était assez solide, là. On a Théo Hernandez.
Je préfère Digne à la limite.
Oui, tu préfères Digne à Théo Hernandez. Et Jules Koundé aussi.
Koundé, ça a été bien il y a 2 ans.
Il a fait un très bon euro.
Je trouve Barça, il est moins bon. Et là, je trouve qu'il est moins bon qu'avant.
Mais moi, je suis d'accord avec Guy, je trouve qu'il y a encore des...
Il cherche trop à revenir sur l'arrière, repasser des balles à Upamecano, et ça peut coûter des buts. Hein.
Exactement, en tout cas, on a pu voir les trucs approximatifs. Oui, Abou.
Non, mais je trouve que, pour poursuivre ce qu'il dit, Guy, même sur l'équipe de France, de manière générale, moi, je trouve qu'il y a encore quelques... Je ne sais pas s'il partage ça, mes petits camarades, ils me le diront, mais je trouve qu'il y a des interrogations encore sur quelques postes, là où on en avait... Peut-être pas sur les anciennes compétitions où on savait dès les huitièmes de finale quelle serait l'équipe type jusqu'à la finale. Moi, pour l'instant, à gauche, je ne sais pas si c'est Hernandez ou Digne. Pareil, ailier gauche, je ne sais pas si c'est Barcola ou Doué. À droite, je pense qu'il n'y a pas trop de questions. Ce sera Jules Koundé. Mais sur le front gauche, en tout cas, de l'équipe de France, je ne sais pas. Digne ou Hernandez, qui est meilleur. Pareil devant, Doué, Barcola, qui est meilleur. Je ne sais pas.
Et même au milieu, entre Koné et Rabiot.
Moi, je pense que ce sera Rabiot. Deschamps, c'est un mec... qui reste stable. Rabiot, il a démarré les 2 premiers matchs. Là, il a mis Koné pour le faire reposer. Et puis Koné va être un homme important, un peu à la Tolisso en 2018. Le mec qui rentre à chaque match à 60e pour apporter du jus, etc. Moi, la seule question qui se pose, c'est à gauche. Je suis d'accord, je veux voir Digne plutôt qu'Hernandez qui est... Offensivement, on n'a pas besoin de lui en fait. On a 4 attaquants qui font la différence tout seul. Donc t'as pas besoin de l'apport d'Hernandez qui a eu du déchet en plus sur ses frappes, sur ses passes offensivement. Et défensivement, il est trop faible. Défensivement, il est mis à l'amende par Oscar Bob. Donc j'imagine même pas quand ça sera Vinicius ou Yamal, ça va être une catastrophe. Donc oui, moi je mettrais Digne qui est un peu plus régulier. On sait qu'il ira jamais à 9 sur 10, mais Digne, c'est un 6 sur 10. C'est un 5, 6 sur 10 minimum à chaque match. Donc moi, je mettrais Digne. Et je pense que Doué Barcola, c'est Doué qui part avec une longueur d'avance. Et Barcola sera utilisé en sortie de banc pour profiter des espaces quand il y en aura. Mais voilà. Et c'est, en tout cas, plus globalement, c'est bien d'avoir eu cette phase de poule où chacun s'est révélé une fois. T'as eu Mbappé qui fait un gros match, qui fait 2 gros matchs même. Olise qui fait un premier match qui est exceptionnel. Là, c'est autour de Dembélé. Donc, chacun a eu son moment de gloire, on va dire. Et c'est de bon augure pour la suite. Et Dembélé, pour moi, c'est un juste retour à la normale. En fait, il a 62 sélections. C'était pas normal qu'en 62 sélections, on ressorte pas un match de Dembélé, en fait. Il y avait aucun match de Dembélé en équipe de France qui était marquant, à part une de ses premières contre l'Angleterre en amical, mais ça compte pas. C'était en 2017. Voilà. Mais depuis, sur les grosses compètes, il était jamais présent, jamais au rendez-vous. Et là, enfin, OK, il a soit sa légitimité à être une des stars de l'équipe de France. Et là, oui, c'est le ballon d'or. Là, c'est normal. Mais tout ce qui s'est passé avant, c'était pas normal. Donc, Il met juste les pendules à l'heure, rien de plus.
Moussa, est-ce que tu partages l'avis de Maxence?
Oui, sur Dembélé, je trouve que c'est vrai qu'il n'y avait pas de match. En fait, tu dis Dembélé en équipe de France, il n'y a pas de match. Donc, et là, le triplé qu'il vient de mettre en 30 minutes, franchement, en plus, ça paraissait facile, en fait. Ça paraissait facile. Et là, il a montré que cette Coupe du Monde, je suis là. Comme d'autres, comme Mbappé est là, comme Alain, comme il a dit, les stars sont là. Moi, je suis une star et je l'ai marqué avec mon triplé et j'espère qu'il va continuer pour la suite.
Mais avec tout ça, on en revient à un seul homme, finalement, c'est Didier Deschamps. Parce que intelligemment, il le fait commencer dans l'axe sur le premier match. Il voit que c'est pas ça. Il va se marcher sur les pieds avec Kylian Mbappé, qui lui aussi est là. Il n'y a pas d'entente, il n'y a pas de lien entre les deux. Intelligemment, il va réaxer Olise et il va mettre Dembélé à droite. Et on le voit aujourd'hui, mais Mbappé, Maxence, il dit 2 gros matchs, mais même 3 gros matchs. Les 2 passes décisives qu'il envoie à Dembélé aujourd'hui, elles sont incroyables.
Ouais, ils se sont cherchés aujourd'hui.
Et quand on nous explique que oui, c'est 2 joueurs qui peuvent pas jouer ensemble et tout, c'est encore rendre hommage au génie tactique et au génie dans la gestion humaine, en tout cas, qui est Didier Deschamps. Et il montre aujourd'hui, en tout cas, que l'équipe de France, déjà, c'est un groupe soudé. Parce qu'il le montre aujourd'hui avec ces 2 joueurs-là, Dembélé et Mbappé, qui se font vraiment... qui montrent en fait qu'ils sont ensemble. Et surtout, je pense que c'est un message aussi envoyé aux sélectionneurs. Vous avez perdu votre maman. tout le groupe. On est ensemble les uns avec les autres, mais on est aussi derrière vous. Et je crois qu'on n'avait pas vu ça depuis 2018. Et tu sens que cette équipe, c'est vraiment une famille. Au-delà même du terrain, je suis désolé, moi je kiffe aller voir sur les vidéos sur Twitter et TikTok. C'est mon kiff de regarder ces mecs-là. Ouais, c'est une vraie belle famille et c'est beau à voir.
Et tu l'as un peu dit, mais il ne faut pas sous-estimer aussi l'intelligence de Deschamps, mais il y a l'intelligence des joueurs aussi. Parce que combien de mecs à la place de Dembélé, en étant ballon d'or, etc., auraient fait la gueule d'être baladé entre 10 à droite, d'être un peu l'adjoint, Mbappé qui brille sur les deux premiers matchs. Combien auraient fait la tête, auraient boudé
en disant « Ah,
non, Mbappé, on ne l'a jamais vu comme ça. En équipe de France, c'est toujours comme ça, mais ça fait bien 3-4 ans qu'on ne l'a pas vu faire ce pressing-là. À la perte, il est toujours là. Il va faire les replis, etc. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu un contrat qui a été passé entre les joueurs et Deschamps. Deschamps qui n'est pas adepte du 4 attaquants, mais les joueurs lui ont dit « T'inquiète, mets-nous le 4 attaquants et on va le faire. Et on va faire les efforts, on va faire ce que tu demandes. » Quand on voit ce que Doué fait sur son côté, il a du déchet, Doué, hein, rien à dire. Offensivement, il a du déchet, mais défensivement, ce qu'il fait pour venir compenser les retours, etc., c'est exceptionnel. Il doit faire 12 km par match. Et donc, je pense que l'intelligence des 4 permettra à ce qu'on puisse continuer avec ce dispositif-là jusqu'au bout, j'espère.
Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, j'ai rien à rajouter et j'ai la même vision. Je vois pareil.
Mais du coup, ça explique pourquoi.
Il y a quand même 10 buts marqués par l'équipe de France. 10 buts d'attaquants. C'est l'attaque qui a marqué.
Exactement, 10 buts. C'est l'attaque qui a marqué, oui. En tout cas, ils sont en forme, on peut le dire.
Ils sont en forme.
Et on espère en tout cas qu'ils vont.
Et quand tu te présentes avec une attaque dans laquelle tu as le meilleur buteur de la Liga espagnole, c'est déjà pas mal. Ouais. Il faut le faire, ça. La Liga espagnole pour marquer le nombre de buts qu'a marqué Mbappé, c'est un sacré exploit. Tu vois, dans la même équipe, le Ballon d'Or, le Olivier qui est en train de devenir
le meilleur passeur d'Europe.
Le meilleur passeur d'Europe. Quand tu as une attaque comme ça, tu rêves, quoi. Tu te dis, on peut voir loin.
Mais c'est aussi pour ça qu'on on avait le droit d'être exigeant avec ces joueurs-là. Quand on voit le résultat sur la Coupe du Monde, bah en fait, on avait le droit de dire quand Dembélé en équipe de France, ça allait pas, qu'il trouvait pas sa place, qu'il était toujours un adjoint comme s'il avait 17 ans.
De complément.
Quand Mbappé jouait main dans le short en faisant aucun repli, on avait le droit d'être plus exigeant parce que la preuve, il arrive à le faire. Donc c'est que quand ils veulent, quand c'est important, ils arrivent à jouer les uns pour les autres, à faire les efforts, à se sacrifier. Donc c'est bien, mais par contre, faut pas tout oublier non plus. Non. Et voilà, à partir de maintenant, c'est le standard qu'on attend sur chaque match.
C'est vrai. C'est vrai.
En tout cas, on a revu la FIFA, en tout cas, juste avant le match. Hein, c'est un peu en dehors du match, mais ça en fait partie. La FIFA qui a précisé que la minute de silence avant le match entre la Norvège et la France sera observée en hommage aux victimes du tremblement de terre au Venezuela. Et elle ne sera pas dédiée à la mère de Didier Deschamps. Et
ils ont même refusé le brassard noir pour les joueurs.
J'avais vu ça, le brassard noir aussi.
C'est un peu curieux quand même.
Ouais, après,
c'est la FIFA, quoi.
Ouais, la FIFA, c'est politique.
Mais c'est la FIFA.
Comment ce que la FIFA fait ou pas. La FIFA est un peu à contre-courant de tout ce qu'il faut. Gianni Infantino, tant qu'il a le plaisir d'aller manger des petits fours dans le bureau de Trump.
Quand il te dit que c'est la plus belle coupe du monde qu'il ait jamais vue, ce fils de la gueule du monde.
Mais c'est la seule qu'il a jamais vue aussi.
Oui, c'est ça.
Oui, voilà, exact. Ouais.
Ah, mais donc oui, il n'y a pas de. Ouais, la FIFA, c'est la FIFA, quoi. Mais une équipe de France qui affrontera sûrement la Suède, c'est ce que je voyais. Sur 51 combinaisons possibles, il y a 49 qui les amènent à affronter la Suède. Ouais. Et si c'est pas la Suède, c'est l'Iran, le Paraguay ou la Hongrie. Oula, j'ai oublié le truc.
Peut-être pas
la Hongrie. Non, je vais dire ça tout de suite.
Mais oui, 49 sur 51, ça fait.
Je pense que ce sera la Suède.
Ça fait du 96% de
mais
chance.
Mais si jamais, ouais, c'est pas la Suède, c'est Paraguay, Iran ou Nouvelle-Zélande. Ça devrait le faire.
Ça devrait le faire.
Avant un gros choc en quart contre l'Allemagne, normalement. Si
la main passe,
ouais.
si la logique est respectée.
Ouais.
Jason, on t'a pas trop entendu. Qu'est-ce que tu peux dire, toi, sur tout ça, hein? Quelles sont tes déceptions et tout simplement tes coups de cœur de cette équipe de France?
Mes déceptions sont les latéraux, hein. Théo Hernandez et Koundé. Surtout Théo qui s'est fait beaucoup travailler par le petit jeune Oscar Bob. Il a un peu tout fait sur le côté.
Après Mbaye. Hein.
Et, ouais, exactement, après Mbaye. Et après, les satisfactions, c'est quasiment le reste de l'équipe. Même la Croix a fait un match solide avec Upamecano. Koné, j'ai bien aimé son apport offensif et ce qu'il apporte en tant que box-to-box. Tchouaméni qui a fait un bon retour aussi dans l'équipe. Et après, le quatuor de devant, on peut rien leur reprocher. Ils ont été très attractifs devant. Il y a eu des bonnes combinaisons, il y a eu des belles finitions. Et chapeau à Dembélé. Et surtout, Maignan aussi, sur ses relances, je pense qu'il y a un très, très gros problème. Lui qui était fort au pied, sur cette Coupe du Monde, il ne rassure pas trop, malgré qu'il sort le pénalty, mais sur ses relances au pied, ça reste inquiétant.
Après, pour sa défense, il y a moins de mouvement. Parce qu'avec le double pivot qui ne vient pas forcément demander, ses défenseurs, ils sont très proches de lui. Donc, leur mettre le ballon, c'est les mettre dans la merde. Et donc, il faut sauter les lignes pour aller chercher les quatre. Donc, ouais, il a un peu plus de mal. Mais pour le coup, Maignan m'a rassuré ce soir. Parce qu'il fait un mauvais match contre le Sénégal. Là, il sort un péno, il se remet en confiance. Ça va lui faire du bien, je pense, dans la tête. Et puis, on sait à quel point on l'a vécu avec Hugo Lloris, à quel point c'est important d'être à l'aise en séance de tir au but sur ces compétitions-là. Donc, c'est plutôt un bon point Maignan ce soir.
Le seul hic, c'est que quand Maignan il joue long, en fait, on n'a aucun joueur d'au jeu.
Ouais, pivot.
Il n'y en a aucun qui va au duel. Il laisse toujours le défenseur passer devant et mettre son coup de casque.
C'est pour ça qu'il dégage souvent sur les côtés.
Ouais, voilà. Les côtés. Il sait que ça va revenir, mais au moins, ça ne revient pas dans l'axe.
Mais je pense que l'équation tactique pour les adversaires de l'équipe de France dans cette deuxième phase va être très, très compliquée. Parce qu'en fait, laisser le ballon à l'équipe de France, c'est s'exposer à un coup de génie d'Olise, Dembélé, de Mbappé, qui peut arriver à tout moment. En fait, dominer l'équipe de France, c'est s'exposer dans le dos à des horreurs aussi. Donc, franchement, si j'étais coach adverse de cette équipe-là, je me ferais des nœuds au cerveau toute la nuit, je pense. Donc,
que faire du 1 contre 1 derrière avec cette attaque-là, c'est compliqué.
Donc ça me paraît compliqué.
On a quand même pu voir aussi qu'il y avait des failles défensives de la part de l'équipe de France. Parce que franchement, la Norvège, s'ils sont un peu plus appliqués, je pense qu'avec un Haaland et un
Déjà sur le pénalty. Hein.
Ouais. Oui. Et même en dehors de ça, si tu mets Haaland et Odegaard, je pense qu'ils finissent pas à un but, les Norvégiens.
Mais je pense que le parti pris de Deschamps, ça va être de dire on va gagner 4-3, on va plus gagner 1-0. Et ça va être comme ça que tu vas aller au bout ou pas. Mais
quand tu vois les autres équipes, t'as pas des Haaland partout. Hein.
Si t'as ces 4 là devant, faut accepter. Ouais. Et d'ailleurs, en parlant de la Norvège, moi j'ai un coup de gueule. C'est pas possible en fait. Pour moi, c'est pas respecter la compétition. T'es la Norvège, ça fait 26 ans que t'as pas mis les pieds en Coupe du Monde. T'as un match à jouer contre peut-être une des meilleures équipes mondiales actuelles, si ce n'est la meilleure, et tu la joues même pas. En fait, ça veut dire que là, si leur 16e de finale contre la Côte d'Ivoire, il se passe mal, ils sont déjà à la maison et ils ont même pas joué à fond leur chance. Ils avaient encore une chance de finir premier, même si. Mais tu peux pas t'avouer vaincu comme ça en sortant tes 10 joueurs. Le gardien a changé, Haaland a changé. En fait, c'est pas possible. En fait, à la limite, fais-les jouer 60 minutes si tu vois que t'es mené 2-3-0. Bon, vas-y, tu les sors pour les reposer pour le 16e. Mais tu peux pas déjà, dès le début du match, t'avouer vaincu comme ça. C'est pas possible.
Ah non, 10 c'est énorme, c'est vrai.
Mais je crois qu'inconsciemment, la Norvège, elle part du principe que la Côte d'Ivoire, c'est prenable. Hein.
Oui.
Je pense que c'est ça le match. On va finir deuxième, c'est pas grave. Mmh. Derrière, on va affronter une équipe africaine.
Non, je suis pas sûr que c'est prenable comme ça, la Côte d'Ivoire.
Je pense que dans leur tête, c'est ça. Mais sur le terrain, ça va être autre chose. Ça va leur faire drôle de voir quand même l'équipe ivoirienne. Mais j'ai l'impression un peu, parce que quand tu fais ça, en fait.
Oui.
La couleur, elle était annoncée dès la fin de leur deuxième match.
Oui, c'est vrai,
où Haaland dit de toute façon, la France est partie pour la gagner. Nous, on n'espère pas battre la
France. Ils vont sûrement nous battre.
Voilà, pour se qualifier. C'est pour ça que je pense que c'est un commun accord entre joueurs et entraîneurs. Et on part du principe que si on arrive à battre la Côte d'Ivoire, on finit en 8e, on sort en 8e, c'est une compétition réussie.
Mais après, moi, je pars plus du principe que peut-être que le coach veut donner la confiance à tout son groupe. Parce que souvent, on dit aussi que.
Non, mais 10 joueurs.
Oui, mais après, souvent, on dit que le troisième match, ça sert à faire tourner. Regarde l'Allemagne.
Oui.
L'Allemagne, hier, a mis son équipe.
Mais l'Allemagne était sûre de finir premier.
Ouais, mais
quoi qu'il arrive.
Son équipe A, elle a servi strictement à rien.
Oui, non, totalement.
C'est un exemple.
Pour relancer une dave, etc., je pense, ça aurait été meilleur. En plus, ça
aurait été meilleur. Et que là, il s'est dit quoi? Autant faire participer peut-être les joueurs du groupe qui ne joueront pas peut-être les prochains tours et mettre tout le monde.
Ouais, mais ça, je comprends que
si tout le monde est concerné.
Que si t'es déjà fixé. T'es sûr d'être premier, tu peux faire tourner. L'Argentine, demain par exemple, s'ils changent les 11, ça me choque pas. Parce qu'ils sont sûrs d'être premier quoi qu'il arrive, donc vas-y, ça joue.
Ouais,
t'es sûr d'être dernier, tu fais tourner, tu fais plaisir à tout le monde. Mais là, t'as encore un truc à jouer. Finir premier pour la Norvège.
Non, mais s'il a confiance en tout son groupe, ça veut pas dire qu'il met l'équipe B, qu'il a plus rien à jouer.
Pour eux, le fait de te qualifier, c'était énorme.
Je suis d'accord.
Donc c'est là, il s'est dit, allez.
Moi, je pense pas que ce soit une histoire de confiance. Parce que là, déjà, les 10, je suis pas sûr qu'ils sont en confiance.
Je pense que c'est une histoire de repos.
Je pense que c'est une histoire de la Côte d'Ivoire, c'est une équipe prenable. On sait qu'on peut le faire contre la Côte d'Ivoire. Je fais tourner mon équipe. J'y vais avec les 11 au maximum contre la Côte d'Ivoire. Si
et
on
un huitième
ça sera un, huitième de finale. Non, ouais, après, en gros, si tu passes, si tu passes, ça peut être un huitième de finale historique, encore plus. Bah,
bien sûr.
Donc, c'est pour ça
mais moi, je trouve ça petit bras. Je trouve ça petit bras
mais c'est une, de pas c'est jouer contre la France. C'est une équipe qui a du mal à se qualifier à l'Euro ou à la Coupe du Monde.
Non, mais
c'est une équipe petit bras. Faut qu'ils fassent comme comment ils le font.
Malgré les joueurs qu'ils ont. Mais c'est une équipe petit bras.
Et c'est dire l'influence qu'a l'équipe de France sur le foot international.
Parce que je pense même qu'ils vont remporter ce tournoi. Je pense qu'ils vont nous battre et je pense qu'ils vont remporter ce tournoi.
Si ce match-là, ils l'avaient joué contre l'Allemagne, le Portugal, l'Argentine, je pense qu'ils auraient tenté le coup de dire on va essayer d'aller choper la première place. Mais là, ils ont abandonné le truc.
Je suis même pas sûr parce que je pense que ce qui est biaisé là-dedans, c'est qu'ils savent qu'ils vont affronter en 16e avant le match.
Et est-ce que tu prends la Suède et là, tu préfères prendre la Suède ou la Côte d'Ivoire?
Moi, je préfère prendre la Suède tous les jours que la Côte d'Ivoire.
Ouais. Oui,
la Côte d'Ivoire est plus forte que la Suède pour moi.
Oui, mais c'est quoi le tableau? Mais la Suède, tu sais pas. Tu vois, ça dépend les jours.
Il y a pas une énorme différence, tu vois. C'est pas un jackpot d'un côté. C'est pas d'un côté tu prends la Bosnie, de l'autre côté tu prends l'Espagne, tu vois.
Bien sûr, mais après je pense qu'ils ont plus, ils ont eu l'habitude de jouer contre la Suède, face à des équipes africaines aussi. Et
le Sénégal, ça leur a réussi. Mais moi, je pense que tout simplement, ils se sont dit, même avec notre équipe ce soir, on va prendre. Donc en fait, autant les reposer. Parce que quoi qu'il arrive, en plus, le match nul a arrangé la France. Donc en fait, il fallait taper la France, c'est impossible.
Et ça évite les blessures.
Du coup, là où je suis pas d'accord, c'est que moi, pour moi, leur confiance, elle a pas du tout été atteinte. Parce que dans le match, ils ont pas du tout été ridicules.
Ils ont continué à jouer.
C'est pas comme s'ils avaient subi, ils avaient pas. En deuxième mi-temps, ils ont quasiment pas hésité à la France.
Ouais, mais ils en prennent 4.
Oui, mais malgré le contenu.
L'équipe de France qui est à 30%.
Oui, mais dans tous les cas, quand tu mets l'équipe B, tu sais que tu pars déjà défaitiste.
Oui, oui.
Donc ça veut dire qu'en gros, vu la prestation et le rendu qu'a vu le coach, même les opportunités qu'ils avaient eues de pouvoir scorer, ils se disent « Attends, t'imagines alors peut-être avec mon équipe A ?» Donc c'est pas grave. Même les gens qui sont sur le banc comme Haaland ou autre, lui-même quand il a dû voir le match, il a dû se dire « Peut-être si j'aurais joué ?» J'en aurais mis un ou deux.
Ouais, mais là, tu sors en 16e contre la Côte d'Ivoire. Le résumé de ta Coupe du Monde, c'est
quoi? Mais leur Coupe du Monde, elle est déjà réussie, la Coupe du Monde.
Franchement, t'as fini.
C'est la première qualification depuis 90.
Je sais pas. T'as un des meilleurs attaquants du monde. T'as une équipe qui est quand même solide avec des mecs qui jouent dans des vrais clubs. T'as Arsenal, t'as Dortmund, t'as City. C'est quand même des vrais joueurs. Pour moi, ça vaut le coup sur 50 minutes de tenter le coup, de dire on y va avec notre vraie équipe, on voit ce que ça donne. Et puis à la 50e, je sors tout le monde. Et j'envoie mes remplaçants qui joueront jamais parce que c'est mort. Mais juste, essayer de créer un match historique en fait pour un pays comme ça.
Moi je pense que regarde, là tu vas faire 16e Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, si tu la prends, en 8e tu peux avoir le Mexique.
Ah, si tu la prends, c'est réussi déjà.
Ou un 3e de poule encore. Dans ta tête, tu te dis vas-y,
c'est le parcours.
Le tableau est plus facile.
Mais pour moi, la Côte d'Ivoire est favorite contre la Norvège.
Oui, mais c'est ce que je dis. Je pense que dans leur esprit à eux, mais pas dans leur esprit.
Ouais, je pense que c'est du 50-50.
Oui, oui,
50-50. Moi, je vois une Côte de 65
avec un Land là.
La Norvège, l'équipe A, faut pas la sous-estimer.
Ouais, avec le. Devant la Hollande,
c'est la première fois que la Côte d'Ivoire se passe les phases.
Oui,
aussi, hein.
Oui mais ils avaient. La Côte d'Ivoire a toujours eu des groupes de fous malades. À une époque où, quand ils tapaient Brésil-Portugal dans un groupe en 2010, tu peux quasiment rien faire.
C'est comme.
Quand t'as Pays-Bas, ils avaient eu Pays-Bas et je sais plus qui aussi une autre année en. Non, en 2014, c'était Brésil-Portugal et en 2010, c'était Pays-Bas et une autre grosse équipe. Argentine, je crois. Pays-Bas, Argentine, Côte d'Ivoire. Donc c'était des groupes.
Mais regarde, c'est comme par exemple le Sénégal, le Norvège. Beaucoup voyaient le Sénégal.
Bien sûr.
Et quand tu vois le match. Mais le Sénégal s'en sort très, très bien.
Prendre au moins 5 buts.
Parce qu'ils doivent prendre une tollée tous les jours.
Mais la Côte d'Ivoire a 3 matchs référence là quand même sur cette Coupe du Monde. Oui, leurs 3 matchs sont très bons.
Mais quand tu bats, admettons, le Sénégal qui est le tenant du titre en titre,
Je
te dis que t'es capable de taper la Côte d'Ivoire.
Bien sûr qu'ils sont capables. Et l'inverse également, de toute façon. Là, il n'y a pas de petit poussé.
De toute façon, là, c'est celui qui perd, il sort. Donc ça va se tabasser jusqu'au bout du bout.
Guy ?
Oui.
Quelques mots encore pour terminer cet après-match ?
Eh bien, je vous conseille de regarder Brésil-Japon. Vous allez voir un beau match. Hein.
Et quel est ton favori?
Japon.
Je les ai trouvés énormes aussi. Oh. C'est vrai que
Japon hein.
Avec un milieu que je connaissais pas, mais Tanaka.
C'est Tanaka qui joue à Leeds, je crois, non?
Tanaka, je n'étais jamais focus sur lui. Mais
en fait, hier, il était super bon.
Le mec, il est partout, devant, derrière. Et c'est un tel collectif. Après, à mon avis, il leur manquera une petite.
Il a un pourparleur.
Avec qui?
Avec Marseille.
Non, nous, c'est Nakata. Non, par contre, à mon avis, il leur manquera une petite individualité pour aller très très loin dans la compète, parce que devant, tu sens qu'ils sont avec Keito Nakamura, c'est Ligue 2, Junya Ito, c'est Ligue 2.
Non, mais c'est un peu limite. Très technique quand même, le Japon, quand tu le vois jouer, ils ont exceptionnel. Et tout.
Les sorties de balles, c'est un massacre.
Et on parlait de Marseille,
ouais, ils ont l'ancien Marseillais Nagatomo,
5e Coupe du Monde, je crois.
39 ans, 5e Coupe du Monde, qui a joué 15 minutes lors du dernier match.
Je pense qu'il joue avec Marseille.
Marseille, il brille même en Coupe du Monde.
Je jouais avec Marseille, j'étais même pas accordé. D'ailleurs, il n'y a même pas de Marseillais actuel, en tout cas, en équipe de France.
En équipe de France, oui, mais à la Coupe du Monde, il y en a un. Il y en a même un qui a marqué.
Bah plus que
Amine Gouiri,
avec l'Algérie.
On
avait oublié celui-là.
On avait oublié. Il avait pris 3-0 face à l'Algérie, on avait oublié. Face à l'Argentine, on avait vite oublié cette équipe.
Mais Medina aussi.
Medina qui fait une bonne Coupe du Monde.
Ouais. C'est vrai que Medina.
Medina, voilà ça.
Medina qui a perdu 10 kilos en un mois, il a fait de la magie. Parce que toute l'année, il a été gros à l'OM, et là, il est abdos tracés.
Il sait qu'il faut être prêt pour la Coupe du Monde.
C'est
généralement ça, en tout cas. En tout cas, les Argentins sont prêts, et en tout cas, les Français aussi sont prêts. Merci à Guy, en tout cas, pour la participation. Guy, on se revoit mardi prochain pour le match de l'équipe de France, on espère. On se tiendra au courant, en tout cas.
Ah, peut-être, oui.
Sûrement.
Je vais voir ça.
Merci, Guy. Oui, hein. Ok, bonne soirée à toi, Guy.
Ciao.
Encore trois petites minutes, messieurs. Maxence, quelques mots à redire pour, en tout cas pour les matchs à venir. Hein. Est-ce que quels seraient tes favoris, toi, pour Brésil-Japon, par exemple?
Ah, pour les 16e qui sont déjà tirés.
Excusez-moi, je voulais amener juste un petit point d'honneur sur Vinicius, hein, qui est en pleine bourre, lui qui est auteur de 2 doublés, tout simplement, et qui porte l'équipe du Brésil. Est-ce que c'est maintenant, tout simplement, qu'il assume son...
Pour moi, c'est son heure. De toute façon, on parlait de Dembélé qui n'a jamais assumé en équipe de France. Bah, Vinicius, c'est la même chose. Avec l'équipe du Brésil, il ne l'a jamais assumé. Et là, c'est son moment où toute l'année, il souffre un peu du fait de ne pas être le numéro 1, etc. Là, au Brésil, avec Neymar sur le côté, Rafinha blessé, c'est lui le numéro 1 contesté, c'est son équipe. Donc, c'est à lui de prouver. Et pour l'instant, il le fait très, très bien. Et il porte cette équipe du Brésil qui a des lacunes. Mais il est au rendez-vous pour la première fois de sa carrière en sélection nationale. Et c'est quelque chose d'important. Oui, après, cette équipe du Brésil, pour moi, elle a des lacunes. Oh. Et à la première vraie équipe, ça va être difficile. Le Japon, ça peut peut-être passer sur la qualité individuelle. Si Vinicius dans un grand soir et que les Japonais sont un peu inefficaces, un peu naïfs. Mais ça va être difficile. Et après, à mon avis, dès que tu vas commencer à jouer... Espagne, Argentine, Angleterre, France, Portugal. Je vois pas le Brésil s'en sortir contre ces équipes-là. Donc j'espère qu'ils me feront mentir parce que c'est toujours un pays qu'on adore voir briller en Coupe du Monde. Mais
t'es triste à voir jouer.
J'y crois pas trop.
Ouais, À part Vinicius, c'est vrai que c'est compliqué. Mais
Matheus Cunha aussi.
Ouais, ce que j'allais dire. Cunha aussi.
Cunha, en fait, tous les ballons passent par Vinicius. Cunha, lui, efficacité devant les cages, y a pas de problème. Après, il se bat sur le terrain, il va chercher les, essayer de récupérer le ballon, il fait le pressing. Sur ça, il fait sa Coupe du Monde. Mais c'est vrai que cette année, je trouve que Vinicius, il prend vraiment l'équipe sur ses épaules.
Puis on va pas oublier la première mi-temps face au Maroc, qui est le seul vrai adversaire qu'ils ont croisé, où ils ont pris pendant une mi-temps, ils se sont noyés complètement. Ouais. Hein. Et derrière, ils ont joué Haïti, l'Écosse. Bon, avec tout le respect qu'on a pour Haïti, qui a tout donné, mais c'est une équipe faible. Et l'Écosse a donné 2 buts à Vinicius, donc bon, c'était compliqué.
À bout.
Le Brésil ou autre chose. Moi j'ai des coups de gueule. Non, vas-y alors. Coupe du Monde, 48 équipes, faut arrêter les conneries à un moment donné. Moi je le dis, désolé. Et à un moment donné, faut arrêter les bêtises. Quand je vois des équipes, et désolé, c'est pas une détestation personnelle contre le Sénégal, mais quand je vois une équipe comme le Sénégal, nulle à chier depuis le début de cette Coupe du Monde, qui va sûrement se hisser en 16e de finale, je trouve qu'il y a un problème dans cette Coupe du Monde. 48 équipes, c'est pas possible. Alors j'entends, oui, il faut inviter les pays du tiers-monde, il faut que tout le monde soit là. Kourou, KO, je sais pas comment ça se prononce.
Kourou,
Haïti, c'est sympa, tous ces pays-là, on a rigolé un peu. Mais les gars, c'est pas possible. Tout à l'heure, c'est Maxence qui disait en off, tous les records vont être battus lors de cette Coupe du Monde. Mais tu m'étonnes, ils sont bien sûr. Même quand on parle des 6 passes décisives, c'est de Pelé. Mais les gars, ils ont plus de sens, ces 6 passes décisives. Il y a des matchs en plus, contre des équipes en bois, en carton. C'est sympa, c'est bien l'ouverture d'esprit d'accueillir tout le monde. Mais non, c'est pas possible d'avoir des équipes comme le Sénégal en 16e de finale. Déjà, une équipe à 3 points qui vont en 16e de finale. Et il y a peut-être même des équipes qui iront en... Bon, avec le carton du Sénégal aujourd'hui, il y aura peut-être pas d'équipe à une différence de but moins qui ira, mais ça aurait même pu arriver.
Mais moi, ça aurait même pu arriver des 3e à 2 points qui y vont, selon certaines formules.
Ouais. Donc ouais, moi je trouve ça affligeant, mais ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur la FIFA, le brassard noir, la merde de Deschamps. Bon, la FIFA, c'est affligeant, et quand j'entends qu'on veut monter en plus à 64, les gars,
une question d'argent.
Bon, alors là, entre ça, les pauses fraîcheurs à la mi-temps et
heureusement, l'UEFA ne va pas suivre.
Bah, pour l'instant, attends deux ans.
Mais ouais, non, moi, c'est juste ça mon coup de gueule. Après, tant mieux pour le peuple sénégalais et tant mieux pour l'Afrique aussi. C'est toujours important que le champion d'Afrique, sur le terrain en tout cas, passe en 16e, même s'il y a le champion d'Afrique administrative aussi qui peut y aller. C'est important quand même que l'Afrique soit représentée en 16e et en 8e de finale. Mais ouais, c'est affligeant quoi. Des matchs comme ça et tu vas en 16e de finale, c'est affligeant.
Mais c'est pour ça que c'est notre rôle, je pense, d'éduquer un peu sur ces histoires de records. C'est que si un mec il en met 15 sur une phase de Coupe du Monde, faudra savoir dire que c'est pas le record de Juste Fontaine qui est battu. Juste Fontaine, c'était sur 5 matchs resserrés contre des vraies équipes avec l'élite. Si t'as marqué contre l'Irak, la Jordanie, l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite, je suis désolé, ça vaut pas une Coupe du Monde. C'est pas.
Mais en fait, je crois que c'est la première Coupe du Monde où t'as autant de joueurs faibles, triplés.
Bien sûr.
Après, il y a trop d'écart entre les nations.
Ouais. Bien sûr. Oui,
mais... ça, on peut rien y faire, mais on le voit.
Si, on peut resserrer les limites.
Oui. Mais là, ça a voulu être ouvert un peu à tout le monde, ça a voulu faire plaisir. Mais quand on voit, par exemple, comme le Qatar, quand tu vois qu'ils prennent une raclée contre le Canada, déjà que le Canada, c'est pas fou, et qu'ils t'en mettent une bonne au Qatar, après, on doit faire avec.
C'est comme ça.
Messieurs, le Sénégal qui devient la première équipe africaine de l'histoire à inscrire 5 buts lors d'un match de Coupe du Monde.
Aussi, c'est un record à la con. Parce qu'ils jouent. Non, mais c'est vrai. Parce que est-ce qu'une équipe africaine a déjà joué une équipe aussi faible que l'Irak en Coupe du Monde?
Je pense pas. Et à 11 contre 10 pendant 80 minutes.
Je pense pas. Donc. Bravo, qu'est-ce qu'on peut dire?
L'Écosse est éliminée de la Coupe du Monde 2026, c'est officiel. Hein. Le Sénégal qui leur sont passés devant. Et voilà, tout simplement pour les matchs. Les 16e, en tout cas, pour l'instant, qui s'annoncent, pour l'instant, en tout cas, ça devrait être ça. L'Allemagne qui joueront face au Paraguay qui peuvent rencontrer tout de suite le vainqueur de l'équipe de France face à la Suède. Juste à côté, l'Afrique du Sud disputera un match face au Canada. Les Pays-Bas joueront face au Maroc, hein, beau 16e de finale. Hein. Portugal joueront contre le Ghana.
Ça dépend. Portugal, ça dépend du match demain contre la Colombie. Il y en a un qui sortira premier, l'autre deuxième, et ça changera des choses.
Ça changera, ça soit le Mexique, soit le Ghana.
Soit la Croatie. 16e de finale a été mis à 3h du matin.
Oui.
Mais c'est là-bas, c'est les États-Unis en fait. Voilà.
L'Espagne, Autriche, États-Unis, Bosnie, Irak, Égypte, Corée du Sud.
Je crois qu'ils sont out. Enfin, ils vont être out.
Non, ouais, mais après, pour l'instant.
Ouais, pour l'instant, tant que les autres n'ont pas joué.
Brésil, Japon de l'autre côté, Côte d'Ivoire, Norvège, Mexique, Équateur, Angleterre, Sénégal. Hein. Pour l'instant, c'est ce qui. Avec le classement, Angleterre, Sénégal.
Ils feront le même boulot.
L'Argentine, Uruguay, Nouvelle-Zélande, non, c'est l'Australie. Australie face à l'Iran, la Suisse face à l'Algérie.
Quand tu vois des Australie-Iran en face finale de Coupe du Monde, c'est l'heure de tout arrêter là.
Colombie face à la Croatie, en tout cas. Voilà, messieurs, pour les matchs prévisions. Mais en tout cas, on va suivre les matchs, en tout cas,
pour un petit quiz, là
vous tenir au courant. Non, toi t'aimes trop les quiz.
Ils gagnent souvent, c'est pour ça.
Non, lundi prochain, j'espère. Je vous prépare un petit quiz spécialement pour toi, Maxence.
C'est gentil.
Merci à Jason, merci à Abou, merci à Maxence, merci à Moussa, merci à Léo à la technique, hein, merci à Philippe, Théo, Stéphane et à Guy aussi qui nous a donné de très bons conseils et son analyse footballistique. Du coup, on se dit merci à vous, nos chers auditeurs et auditrices. On se dit à très bientôt pour du football, encore du football, toujours du football. Bonne soirée à vous.